Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Ah Richard, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin.
Moi aussi.
Ça faisait longtemps. Vous connaissez le CNC ?
Oui.
Et oui, alors les auditeurs connaissent, hein, bien sûr, j'imagine. Mais tout le monde n'a peut-être pas entendu parler de ce scandale financier que renferme cette officine publique qui déverse des millions d'euros d'argent et à des militants d'extrême gauche. Petit clin d'œil au député Charles Alloncle qui va se pencher sur ce dossier ahurissant. Ahurissant parce que ce Centre National du Cinéma déverse des tonnes de fric à des vidéastes sans talent qui ont du mal à comprendre que cet argent sort de notre poche, comme celui-ci par exemple.
Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me dire d'où vient l'argent du CNC Talent ?
Le CNC, ou Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, finance principalement le cinéma français grâce à plusieurs sources. Ça vient d'abord de taxes, notamment sur les billets de cinéma, les chaînes de télévision, et aussi les revenus des plateformes de VOD ou des fournisseurs d'accès à Internet. Donc c'est un système qui repose beaucoup sur ces contributions obligatoires.
Je veux dire que le CNC n'est pas payé par l'impôt des Français.
C'est ça. Le CNC Talent, qui est lié au financement des talents et des projets numériques, repose aussi beaucoup sur des contributions spécifiques du secteur, comme les taxes sur les services numériques, les plateformes, etc. Donc non, ce n'est pas directement financé par les impôts des citoyens, mais par ces taxes sectorielles.
C'est pas payé pareil, quoi, c'est des taxes. Ah oui. Attends, mais il a dit... Ah, mais c'est de l'argent public ! Moi, je te propose maintenant... Deuxième chose, parce que moi je suis d'accord avec toi que pour moi la taxe est l'impôt le plus injuste. Moi mon vrai avis, là où je suis d'accord, c'est que ça ne devrait pas être des taxes. Ça devrait être les impôts. Ça devrait être ta daronne la riche qui me donne de l'argent à moi pour inviter des gens au plateau pour défendre le travail du sexe.
On sent l'intelligence absolument extraordinaire, le QI
qui,
à trois chiffres.
Qui est ce jeune garçon admirable ?
Alors, en tout cas, c'est un streamer, un vidéaste qui est financé à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros par le CNC. Voilà ce que finance notre argent, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme je disais. Énième scandale de cet écosystème gauchiste qui se protège et se finance avec l'assentiment du politique qui joue magnifiquement le rôle de complice actif dans toute cette affaire. Et tout part d'une révélation. Une vidéaste qui en a un peu trop dit en dévoilant sa fierté de financer ses amis.
Je suis trop contente, mais cette année et pendant deux ans, donc deux années consécutives, je suis jury au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créateuristes de contenu web. C'est vraiment focus sur le web. S'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que... Si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet, en fait. Mais genre, sans déconner, tu vois. Enfin, c'est logique. Si demain, Rivenzy, il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode « Bah ouais, mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens, en fait. C'est évident, c'est mon ami. »
Évidemment. Et à l'approche de la fin de la commission sur l'audiovisuel public, j'espère vraiment que Charles Alloncle aura le temps d'auditionner et d'enquêter sur les bonnes personnes pour mettre fin à tout ce cirque, bien qu'on lui mette parfois des bâtons dans les roues, comme cette fois où il n'a pas pu interroger la fille de Jack Lang.
Madame Lang, la fille de Jack Lang, et je demande l'audition de Caroline Lang parce que pour moi, elle a beaucoup de choses à dire. Et bizarrement, la commission d'enquête a refusé de la convoquer quelques jours après les révélations du scandale Epstein.
Qu'il doit être bon et facile d'être goutte de gauche dans ce pays, protégé par les plus hautes institutions et financé par le peuple français sans qu'on lui demande son accord, magnifique. Mais cette gabegie ne concerne pas que les vidéastes. Les politiques sont également pointés par leur façon de gouverner. Exemple avec ce dialogue de sourds entre le socialiste André Valigny et Pascal Praud.
Le logement social, c'est
allez,
une arme
voilà,
électorale.
Le logement social,
le communautarisme, c'est évidemment
plus
une arme
de logements sociaux. Hein.
Et ce sont les enseignements que
plus de logements sociaux.
Il y a eu un dévoiement. Il y a eu
ensuite,
un dévoiement.
Non, ensuite, pardonnez-moi.
Le logement social est devenu un arme électorale.
Vous voulez pas de logements sociaux, c'est bien. Peux, donc que les pauvres dorment dehors.
Et
alors.
C'est une stratégie pour la gauche qui revendiquait. Donc,
ah
évidemment,
oui, bah oui, la gauche fait du logement social, oui.
Ensuite,
la gauche fait du logement social.
Ensuite, ce que je voudrais.
La gauche fabrique des pauvres pour gagner les élections. Ça vous va ?
Non, elle fait du logement social pour les classes modestes.
Dans les villes.
Autrement,
dans les
villes. Autrement
elle ne gagnerait pas
les élections.
La gauche,
se préoccupe des gens modestes.
Ensuite, je voudrais dire...
Et c'est pour ça que les gens modestes votent pour le Rassemblement National depuis
tous,
25
pas
ans.
Pas tous.
Excusez-moi, mais pas c'est tous. Pas tous, la majorité. Tous les ouvriers, ils sont où ?
Arrêtez !
En fait, ça ne tient pas.
Eh bien, on continuera quand même à faire du logement social.
Pour gagner les élections.
Mais non, puisque vous dites qu'ils ne votent pas pour nous. Vous êtes pris à votre propre piège.
Pour gagner les élections. Parce que ceux qui sont dans le logement social...
Puisque vous dites qu'ils ne votent pas pour nous.
Il y a beaucoup d'immigration dans les logements sociaux.
Ah, voilà, on y revient.
Vous savez bien.
C'est 25.
Mais vous savez
bien. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas...
Mais écoutez...
Non, mais sincèrement, André, c'est un sujet, l'immigration.
Ah oui, oui.
Ah bah oui.
Le pouvoir d'achat.
J'irais même, c'est le sujet.
Et oui, parce que les municipales sont terminées et la présidentielle approche. Mais ces élections locales ont soulevé de nombreuses zones d'ombre bien plus inquiétantes, notamment par cette question pertinente de Tugdual Denis au nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs? Il y a eu un article dans le Canard Enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, effectivement, qui disent que dans la salle des fait de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que, il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant.
Alors,
est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait?
C'est une question complètement irresponsable.
Que n'a-t-il pas fait? Évidemment, cette simple question a provoqué un cyberharcèlement massif. Et les insoumis font ce qu'ils font de mieux, censurer et boycotter, comme ici, sur le plateau des Grandes Gueules, sur RMC.
On a un petit contentieux en ce moment avec les insoumis. Il se trouve qu'avant-hier, sur le plateau de BFM TV, on a reçu le maire de Saint-Denis, élu au premier tour, M. Bali Bagayoko. Et que notre confrère de Valeurs Actuelles, Tugdual Denis, lui a posé une question. Visiblement, ça n'a pas plu du tout à la France Insoumise.
Oui, la question a déplu à la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon et à ses lieutenants. Et depuis, la France Insoumise nous soumet à un chantage. Elle dit, si vous voulez qu'on vienne chez vous, dans les Grandes Gueules notamment, eh bien, il faut vous excuser. Alors, bien sûr, nous ne céderons pas à ce chantage. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Donc, on a un petit problème parce qu'on voulait recevoir Sofia Chikirou ou l'un de ces colistiers. Ce n'est pas possible. Donc, on est un peu coincé par ce chantage qui est complètement inadmissible. Donc, pas d'excuses, bien entendu. La question posée sur BFM TV par Tugdual Denis était tout à fait légitime. Elle rentrait dans le cadre du débat et de notre rôle d'intervieweur et de contradicteur. Et tant pis pour la France Insoumise, s'ils ne viennent pas, à mon avis, c'est plus un problème pour eux, puisqu'il y a quand même des élections à gagner, que pour nous.
Comme je le disais plus tôt, la question était pourtant fondée, notamment par un article du Canard Enchaîné, du Parisien, mais aussi confirmé par de nombreux témoignages et enquêtes, selon cette journaliste du Figaro.
J'ai échangé, là, il y a encore un quart d'heure, avec un de mes contacts à Saint-Denis, qui me dit « mais oui, mais c'est de notoriété publique, on le sait très bien ». Ce que je peux vous dire aussi,
Qu'est-ce qui est de notoriété publique, pardon? Le lien entre Bali Bagayoko et un certain nombre de...
C'est proche, en tout cas c'est proche, toute la nébuleuse autour. Il y a des connexions plus ou moins proches. J'ai échangé aussi avec de nombreux assesseurs qui étaient présents lors du scrutin, qui m'ont dit, c'est marrant, on a vu des jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui ne savaient d'ailleurs pas forcément comment faire.
Un autre témoignage, celui d'un policier municipal de Saint-Denis, qui affirme que des dizaines et des dizaines de dealers ont fêté dans la mairie la victoire de Bali Bagayoko.
Ouais, on a pu le voir lors de la soirée des résultats à l'hôtel de ville. Effectivement, c'est des dizaines et des dizaines d'individus connus de nos services, des participants de Point Stup, des gérants, qui ont pu pénétrer dans l'hôtel de ville, qui ont pu célébrer la victoire du nouveau maire. C'est forcément des personnes qui sont très heureuses du changement de politique sécuritaire et qui espèrent pouvoir retrouver le calme et la quiétude qu'ils avaient avant 2020. Ouais, c'est ces mêmes individus qui souvent ont rencontré dans les semaines précédentes les élections, les jours précédents, qui se targuaient de nous voir partir d'élection de Monsieur Bali Bagayoko. Ils avaient forcément très très hâte que ça arrive, et c'est arrivé.
Je ne donne pas cher de la peau de ces policiers qui devront affronter à la fois ces guérillas urbaines et un désarmement massif dû aux décisions du nouveau maire. Et ça n'a pas loupé, car dès les premiers jours, on apprend que les policiers seront privés de LBD. Mais ce n'est pas suffisant, selon cette conseillère municipale d'extrême gauche.
Je suis évidemment pas surprise d'entendre le syndicat Alliance se scandaliser du fait qu'on enlève les LBD aux policiers municipaux, puisque c'est ceux qui défendent systématiquement l'impunité policière et qui, après les révoltes, après la mort de Naël, avaient publié un communiqué pour expliquer qu'il fallait combattre ces hordes de sauvages et ces nuisibles. Et c'est les mêmes qui expliquent que le problème de la police, c'est la justice. Maintenant qu'on a dit ça, effectivement, moi je suis élue municipale à Saint-Denis, je pense que c'est très bien de retirer le LBD aux policiers municipaux, mais
pourquoi?
Je pense qu'effectivement il faut aller plus loin, je vais vous expliquer. Nous, dans notre campagne, on a apporté la nécessité d'un désarmement total et immédiat, c'est-à-dire que le LBD, ça ne suffit pas. Il faut aussi enlever les 9 mm que Anotin, qui est l'ancien maire de Saint-Denis, a offert à la police municipale. C'est le symbole le plus clair des politiques sécuritaires qui ont été mises en place, qui ont harcelé la jeunesse des quartiers et les plus précaires de notre ville. Il faut savoir que ça servait à systématiquement chasser de l'espace public les jeunes de quartiers
populaires. Pas à lutter contre l'insécurité ?
Pas du tout. Et les vendeurs de brochettes à la gare de Saint-Denis, c'est d'ailleurs revendiqué
tel quel. Comment ça, il est chassé avec quoi ? Au 9 mm ?
Pas aux 9 mm, ah bon, mais avec des arrêtés d'interdiction.
N'importe quoi. Censurer, boycotter, corrompre, faire élire. Et quand tout ce plan marche, on humilie l'adversaire. Je ne retracerai pas les innombrables témoignages de maires qui se sont fait purement chasser de leur mairie par des cris et des insultes. Mais pour LFI et Mathilde Panot, ce n'est pas bien grave.
Nous sommes revenus dans le temps des attaques absolument immondes contre la France insoumise, et notamment avec des attaques d'un racisme incroyable contre les maires qui ont été élus. Alors l'autre polémique, ce serait les violences qui auraient été exprimées contre des maires sortants, notamment parce que certains des maires sortants se sont fait huer par des habitants. Alors déjà, première chose, ces attaques viennent à la fois de l'extrême droite jusqu'à là aussi Gabriel Attal et Yael Braun-Pivet. Et donc, je veux dire, il n'y a rien de grave dans le fait qu'un maire soit hué à un moment sans aucune violence physique.
Pourtant, ces scènes anodines et inoffensives, selon Mathilde Panot, ont tout d'un basculement social et surtout identitaire, comme l'a très justement analysé le journaliste Amaury Bucaud sur Sud Radio.
On avait l'impression d'une revanche politique, comme s'il y avait une vengeance qui était en train de s'exercer.
Pour moi, ça dépasse complètement le cadre politique. Je ne crois même pas que les personnes qui ont proféré ces menaces ou ces mots très violents
savaient que c'était des socialistes, quoi.
Non, ou le faisaient pour des motifs purement d'appareil politique. Je crois qu'il y avait une volonté d'humilier et de conquérir physiquement les mairies. D'ailleurs, par exemple, le maire de Mantes-la-Jolie, qui a pu témoigner d'ailleurs sur plusieurs radios, raconte qu'il y avait des personnes qui tentaient de s'introduire dans plusieurs endroits de la mairie, comme si vraiment ils voulaient s'approprier les lieux. Ou la maire d'Aubervilliers, qui me racontait, pareil, qu'il y a eu des scènes, c'est assez violent pour elle, qui me dit que la famille de la tête de liste qui a gagné les élections est rentrée dans la mairie comme si c'était chez elle. Vous voyez, il y avait une dimension de conquête physique. Et puis, il y a vraiment quelque chose d'encore plus fort. Pour moi, il y a d'une part une revanche sociale, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était une classe bourgeoise qui perdait dans ces mairies-là contre une espèce de nouvelle caste, de nouveau prolétariat, et même une dimension identitaire, presque ethnique, j'ai envie de dire, puisque c'était aussi souvent des maires blancs qui se retrouvaient défaits par des candidats issus de l'immigration extra-européenne, comme on dit, issus de l'immigration.
Et pourtant, ces maires ont joué le jeu. Rien ne les prédestinait à un tel sort. Ils ont promu le vivre ensemble, construit des logements sociaux, subventionné les bonnes associations, mais ça ne les a pas protégés, loin de là. Pourquoi ? Eh bien, François Bousquet tente de trouver une explication sur CNews.
Est-ce que ce n'est pas une forme de racisme anti-blanc toléré, là ?
Oui, globalement, le racisme anti-blanc est toléré, est accepté. Il est très à la marge, il est puni par les magistrats, par les tribunaux, mais c'est très marginaux. Je pense qu'il n'y a pas eu 10 condamnations en France pour racisme anti-blanc, donc alors que c'est un phénomène qui existe depuis un demi-siècle. Hein. Et ce qui arrive à des élus, c'est assez ironique, hein, parce que par clientélisme, par paternalisme, par haine de soi qu'évoquait Mathieu Bock-Côté, ils ont fait le choix du tout migratoire, parce qu'ils étaient encore élus par ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont remplacés. Ils sont jetés sur, renvoyés sous les houes. C'est pas une huée d'honneur, c'est une huée de déshonneur, hein, avec une forme de racisme anti-blanc. En gros, ce que les administrés blancs subissaient depuis 10 ans, 20 ans, eux le subissent depuis dimanche soir. C'est une découverte pour eux. C'est que le monde qu'ils avaient fantasmé, le délire multiculturel qu'ils avaient fantasmé, est en train de se transformer en délire, en folie multiguerrière, multiraciale. Donc oui, c'est une forme de racisme anti-blanc qui est en train de coloniser l'espace public. Pour moi, c'est le bruit de fond de la société. Simplement, ce bruit de fond, on ne le voit pas dans les médias centraux.
Avec les municipales, les élus de gauche ont découvert pour la première fois ce qu'ils ont toujours refusé de voir, le racisme anti-blanc. Eux qui étaient pour le tout migratoire pendant des années par clientélisme ou haine de soi sont désormais à leur tour grand remplacés et chassés sous les huées. Et tout ça risque fort de continuer car qui vient en embuscade après sa victoire nette au Havre Édouard Philippe, sans doute le pire successeur qu'on puisse imaginer. Je laisse la parole à l'ancien ministre Luc Ferry, qui a trouvé les mots justes.
Moi, je ne voterai jamais, jamais, jamais pour, en tout cas, moi qui suis alors un vieux gaulliste de toujours, on ne peut pas trouver plus droite gaulliste républicaine que moi, je ne voterai jamais, je vous le dis très franchement tout de suite, et je ne changerai pas d'avis, pour une alliance avec le centre, ou comme l'a dit Darmanin, avec le centre et pourquoi pas les socialistes. Voilà. Édouard Philippe a été, je suis désolé de le dire, le plus mauvais Premier ministre de la Ve République avec cette affaire des Gilets jaunes. Il nous a mis pendant 2 ans les Gilets jaunes dans la rue pour garder Nicolas Hulot au gouvernement. Et il voulait supprimer 14 centrales nucléaires. Heureusement qu'il est parti et c'est lui qui a fermé Fessenheim. Donc tout ça a été absolument calamiteux. Et donc je ne voterai pas pour ce garçon, pour rien au monde. Je ne veux pas d'un centriste au pouvoir. Surtout pas, surtout pas. Il faut que les gens réfléchissent.
Tout semble écrit. Cette gauche hystérique, radicale, identitaire, finira, au fil de ses victoires électorales, par se révéler comme un repoussoir absolu. Les médias, eux, se chargeront d'orchestrer la sempiternelle symphonie du rempart contre les extrêmes, prétendant ainsi protéger notre nation, livrée aux pires charognards. Et dans ce décor surgit Édouard Philippe, candidat tout désigné pour pérenniser l'empire du macronisme. Ainsi se perpétue le système. Voilà, Richard.
Mais c'est horrible.
C'est
la conclusion la plus désespérante.
Et ils sont très forts, faut l'admettre.
Eh bien, merci beaucoup, Louis.
Merci.
Ligne droite, l'analyse.
Et cette analyse, c'est avec Xavier Van Lierde. Bonjour, Xavier Van Lierde.
Bonjour, Richard.
Alors, ces élections municipales, bien sûr, ne veulent rien dire des élections présidentielles et chacun, en fonction du nombre de villes emportées ou perdues, a expliqué... qu'il s'agissait d'une sociologie très, très particulière. Mais au bout du compte, on voit bien qu'il y a des clivages politiques qui se sont en train de se mettre en place dans la perspective des présidentielles.
Oui, vous avez raison, Richard. Nous sommes pour l'instant au lendemain des municipales dans une sorte de brouillard. Et c'est bien naturel, car vous le savez, seul Dieu est omniscient. Seul Dieu peut embrasser le réel dans tout son foisonnement et dans toute sa complexité. Quant à nous... pauvre mortel, eh bien c'est très différent. Pour comprendre quelque chose au réel, nous devons sans cesse le simplifier. Nous devons le raffiner et le raffiner encore pour finir par obtenir quelques idées simples qui forment une sorte de cartographie mentale qui nous permettra d'orienter notre pensée et de nous orienter dans le monde. Et bien sûr, la politique n'échappe pas à ce processus. Pour nous y retrouver, nous analysons l'offre au regard de quelques archétypes qui sont le plus souvent des polarités. Car comme l'avait bien perçu l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, l'esprit humain pense spontanément par opposition. Ainsi, pour comprendre la scène politique, nous pouvons organiser le réel selon toute une série d'oppositions entre des polarités, des contraires, qui forment in fine des clivages. La gauche et la droite, évidemment. Mais pas seulement, il y a aussi d'autres clivages. Les mondialistes contre les nationaux, les étatistes contre les libéraux, les européistes contre les souverainistes, les collectivistes contre les individualistes, les populistes contre les élitistes, ou plutôt contre l'oligarchie, les identitaires contre les diversitaires, etc. Les progressistes contre les conservateurs, n'oublions pas. Et enfin, les centristes contre les extrémistes. Alors, ce sont tous des outils intéressants et indispensables, mais qui, bien entendu, ne sont pas neutres. Et c'est là où je voudrais en venir. Car selon les clivages choisis, eh bien, on obtient en effet des camps composés de façon très différente, et donc des majorités différentes, si bien que choisir le cadre, choisir la polarité, c'est donc bien souvent choisir le vainqueur. Et on commence à bien le voir dans la façon dont chaque candidat tente d'imposer son cadre pour la prochaine présidentielle. Je vous propose de les passer rapidement en revue. Pour Mélenchon, le cadre, c'est bien simple, ce doit être l'antifascisme. Il y a lui, ceux qui se rallieront à lui, et tous les autres qui ne seront que des fascistes ou des complices des fascistes. C'est complètement dingue, mais c'est simple, et cela s'enracine après tout dans la mythologie de la gauche, qui est un peu dingue elle aussi dans sa totalité, si bien que jusqu'au PS, on adore le cirque antifasciste, et bien donc cela fonctionne quand même pas mal. En fait, pour Mélenchon, l'enjeu est de maintenir le fameux front républicain, mais en déplaçant radicalement son centre de gravité vers la gauche. Pour Jordan Bardella, le cadre est au contraire celui d'un retour du clivage droite-gauche. Mais à son profit, en agrégeant progressivement tous ceux qui s'opposent à cette gauche sous emprise LFI, en ralliant à lui les éléments les plus conservateurs de la droite LR, de façon à devenir le pivot d'une sorte de vaste bloc national conservateur et libéral. Le ralliement au RN de figures telles que Éric Ciotti ou encore Marion Maréchal donne un début de réalité à ce projet, qui ne sera toutefois pleinement accompli qu'après avoir entièrement siphonné l'électorat LR, projet qui donc pourrait être mis en place à l'occasion de cette présidentielle. Alors pour les mille nuances du centrisme, et pour Édouard Philippe, qui est donc désormais mis en scène comme le champion de ce segment de la classe politique, eh bien le cadre est bien au contraire celui d'un refus systématique des extrêmes qu'il faudrait rejeter dos à dos. L'enjeu est donc, grâce à cette grille, d'éviter que le centre ne finisse écartelé entre le RN d'un côté et les filles de l'autre, et donc de maintenir une sorte de front républicain, là encore, mais se battant cette fois contre deux fronts, à la fois contre les filles et contre les RN, avec pour objectif de conserver en son sein à la fois le PS qui pourrait se détacher vers LFI et LR, dont de larges pans des électeurs pourraient se détacher afin de rejoindre le Rassemblement national. Le cadre proposé doit donc éviter pour le centrisme à tout prix la réémergence d'une polarité droite-gauche qu'il ferait aussitôt disparaître et repartir dans le néant politique d'où en réalité il n'aurait jamais dû sortir. Voilà pourquoi on peut dès à présent deviner quels seront les thèmes de campagne et les cadres que va nous proposer ce centre. Car bien évidemment, dans la mise en place de ces différents cadres, tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes. Mélenchon joue avec sa capacité à polariser et à manier même l'outrance. Jordan Bardella tente, lui, de rassurer de façon à étendre sa base vers la droite conservatrice et libérale. Édouard Philippe, lui, c'est beaucoup plus simple. Il n'a rien à faire. Les médias s'en occupent à sa place. L'ensemble du système contribue à mettre en place son récit et les cadres de réflexion avec lesquels nous, pauvres humains, analysons notre environnement et donc, en l'espèce, la scène politique, puisque, une fois encore, les cadres façonnent notre manière de voir le monde et donc façonnent l'opinion. Alors, pour ce centre triomphant et médiatique, le premier cadre, le plus large, celui qui plante le décor, c'est cette affirmation, le centre, c'est le refus des extrémismes. L'affirmation, évidemment, a pour elle un grand atout, c'est celui de coller à la représentation spatiale de la vie politique. Si les forces politiques se distribuent selon un axe gauche-droite, eh bien, le centre est évidemment, par nature, à équidistance des extrêmes. Mais ce n'est bien sûr qu'une convention. Car si l'on change de cadre d'analyse, si l'on veut bien considérer que le centre est, on peut tout aussi bien considérer que le centre est vecteur lui-même d'idées extrêmement rudes et qu'il est lui-même extrémiste. Je prends quelques exemples. Le centre est de façon déterminée et résolue et permanente pour la dissolution des nations dans le fédéralisme européen. Faire disparaître la nation, cadre d'expression de la démocratie pour remettre le pouvoir des instances technocratiques, est-il vraiment modéré ou plutôt extrémiste? Le centre, de même, affirme vouloir défendre l'état de droit. Ça sonne bien aux oreilles, c'est sympathique, on a l'impression qu'on va être protégé de l'arbitraire. Mais il en donne une telle définition aujourd'hui qu'il s'agit plutôt de la défense du gouvernement des juges contre le gouvernement du peuple. On en a d'ailleurs une très belle illustration tout récemment avec Yael Braun-Pivet affirmant à la télévision qu'un référendum sur l'immigration serait en dehors du champ républicain et contraire à la Constitution. Est-ce vraiment là une position modérée ou plutôt une vision extrémiste, voire sectaire de l'état de droit et en tout cas une vision parfaitement antidémocratique du fonctionnement des institutions? Et plus largement d'ailleurs, puisqu'il est question d'immigration, c'est cette idée que le peuple ne pourrait pas donner son avis sur les vagues migratoires qui lui sont imposées depuis 30 ans jusqu'à ce qu'il soit littéralement submergé, jusqu'à ce qu'il voit son identité désagrégée et la société archipélisé en une multitude de communautés, est-ce réellement une vision modérée ou au contraire un projet des plus extrémistes? Et on pourrait poursuivre ainsi les exemples, mais revenons au cadre que l'on veut nous imposer au profit du centre. Le second cadre est celui de la compétence, très bien illustré par l'expression « cercle de la raison ». Le centre se veut non seulement raisonnable, mais carrément rationnel. Il aurait le monopole de la raison et bien sûr de la compétence. Il sera le seul à pouvoir prendre des décisions avisées. On retrouve aussi cette idée dans l'expression « partis de gouvernement. Il y a en effet des partis de gouvernement ayant une vocation naturelle à gouverner et d'autres qui en seraient par nature incapables et indignes et qu'il faudra donc repousser jusqu'aux marges et empêcher à tout prix de gouverner le pays. Alors l'idée tire sa force évidemment de l'expérience. Édouard Philippe, nous dira-t-on tout au fil des mois à venir, est un homme d'expérience. Il a été Premier ministre et issu de partis de gouvernement qui ont l'expérience justement du gouvernement. Si l'on reste dans ce cadre de pensée, c'est cohérent et cela fonctionne. C'est rassurant et séduisant, même pour un esprit conservateur. Mais si l'on sort du cadre, si l'on change de perspective, cela s'effondre car cette expérience est aussi un bilan. Et ce bilan est calamiteux. 40 ans de gouvernement, des partis de gouvernement, ont produit quoi ? La désindustrialisation, la faillite budgétaire, l'effondrement de la natalité, la submersion migratoire, l'explosion de l'insécurité. Voilà le vrai bilan des partis de gouvernement. Enfin, il y a, terminons par ce dernier cadre imposé, cette idée que le centre serait progressiste et donc tourné vers l'avenir, tandis que ses adversaires, de droite et surtout d'extrême droite, de soi-disant extrême droite, seraient des passéistes enfermés dans une vision périmée de la France, une vision sépia de la France et de ses enjeux. Et cela sera asséné comme une évidence, et l'on sera même tenté d'épouser cette grille de lecture, d'accepter cette distribution des rôles en dénonçant justement les progressistes. Mais là encore, ne faut-il pas questionner la validité du cadre ? Avant-hier, en présentant sa vision de l'immigration, Édouard Philippe prenait son ton le plus docte, le plus assuré, le ton de l'homme de gouvernement, pour affirmer que la France devait accepter la nécessité d'accueillir de nouvelles vagues d'immigration parce que, disait-il, notre population active se contracte. Le diagnostic est ainsi asséné avec la force de l'évidence, de la compétence et de l'expérience. On en retiendra toutefois surtout qu'à l'heure de la révolution de l'intelligence artificielle et de la robotique, le candidat de la raison, de la compétence, de la science et du progrès réuni ignore que les problèmes de main-d'œuvre en seront bien évidemment totalement bouleversés, voire même transformés et inversés, puisque ces révolutions-là posent plutôt la question, et ce sera une des grandes questions à mon sens dans les décennies à venir, de la persistance du travail et de la capacité à offrir un moyen de subsistance et de participation à la prospérité nationale de pans entiers de la main-d'œuvre d'ores et déjà présente sur le territoire national. Alors que, voilà, notre Édouard Philippe tourné vers l'avenir, notre Édouard Philippe compétent, lui, résonne encore comme dans les années 50, comme à l'époque où l'usine Citroën se trouvait quai de Javel en plein cœur de Paris. Il résonne comme au milieu des Trente Glorieuses. Et en nous expliquant que pour faire tourner la machine économique, il faudrait faire venir en masse de la main-d'œuvre africaine. Cette seule proposition montre qu'il ne faut décidément pas se laisser enfermer dans les cadres qui sont ceux proposés par le système et les médias de façon à promouvoir comme une évidence le centre qu'on pourrait appeler l'extrême-centre, car il pourrait y avoir, tiens, une autre grille de lecture à appliquer, plus amusante, celle d'une sorte d'échelle de la ringardise. Et là, très sincèrement, il semble que cet extrême-centre vieillissant, cette queue de comète des partis de gouvernement, serait absolument champion. Mais ça ne concerne d'ailleurs pas seulement Édouard Philippe. Je peux donner un dernier exemple en guise de conclusion. J'entendais récemment Bruno Retailleau, DLR, autre parangon des partis de gouvernement, nous expliquer sa propre recette face à l'immigration, et donc lui, c'était à la fois restriction de l'immigration, fort bien, mais aussi assimilation. Voilà encore une belle idée, complètement ringarde, puisque, comme on le sait, l'histoire des 40 dernières années n'est pas celle de l'assimilation, mais plutôt de l'échec de l'assimilation, et donc nous sortir cette idée-là comme une idée novatrice, appelée à structurer notre position sur cette question ô combien vitale dans les années à venir, eh bien, cela mérite de le faire figurer lui aussi en tête du peloton des plus ringards. Voilà. En conclusion, nous allons vivre un terrible bombardement visant à nous faire penser dans les cadres définis et extrêmement évanescents qui sont ceux définis par l'extrême-centre, mais le salut du pays, le nôtre et celui de nos enfants, tiendra au fait que, d'être capable de sortir de ces cadres de pensée et de façon à avoir accès au réel et au véritable enjeu, ceux du début de ce troisième millénaire et de ce premier quart du siècle.
Merci beaucoup, Xavier Van Lierre. J'ai beaucoup aimé, évidemment, que vous invoquiez la ringardise d'Edouard Philippe, qui me paraît d'ailleurs dans la droite ligne de celle d'Emmanuel Macron, qui a un imaginaire industriel qui date du TGV. Je retiens aussi deux formules, le CSPU, le parti de la compétence, de la science et du progrès uni, donc je pense qu'il faut utiliser l'acronyme, mais aussi le PPR, le parti des plus ringards. Et j'espère qu'il va y avoir une alliance fructueuse entre les deux et des rapprochements vraiment intelligents. Revenons sur ce que vous disiez de l'immigration et d'Edouard Philippe. On sent effectivement que ces gens qui d'un côté nous expliquent que l'intelligence artificielle est une merveille, qui nous expliquent qu'il faut que la France investisse, n'ont pas l'air de voir que, par exemple, la Chine, qui n'est pas pauvre en hommes, même si elle aussi a des gros problèmes de démographie, est en train d'investir massivement dans la robotique avec des usines entièrement robotisées, avec maintenant des humanoïdes dont on nous montre dans des vidéos somptueuses qui sont capables à 5 ans de faire des mouvements de kung-fu coordonnés avant que d'autres vidéos, elles, produites par l'intelligence artificielle, nous les montrent en train de marcher sur les champs de bataille comme les droïdes dans la guerre des étoiles. On sent qu'il y a une mutation du travail et que la robotique et le revenu universel sont en fait de vraies hypothèses sur lesquelles les futurologues travaillent depuis des années, mais la classe politique française est hermétique. C'est-à-dire, elle ne comprend rien, d'une manière générale, à la technologie, elle ne comprend rien aux mutations industrielles en cours.
Oui, exactement. C'est absolument fascinant parce qu'on a le camp de ceux qui prétendent être en phase avec les enjeux d'aujourd'hui, en phase avec l'entreprise, être du côté de la science et donc du progrès, etc. Être totalement dans la cécité par rapport à ces enjeux-là. Pour ne donner qu'un seul exemple, un colloque réalisé en 2018 en France par la fine fleur des prospectivistes français, en l'occurrence par la revue Futurible et tous les chercheurs qui lui sont associés. Donc ce colloque intitulé « Comment vivrons-nous en 2050 ?» et donc colloque évalué en 2018, nous expliquait que l'un des scénarios, c'était l'émergence d'une société dite algorithmique et qui était fondée sur effectivement la convergence d'une part de l'intelligence artificielle et des capacités d'analyse qu'elle permet et de la robotique, tant et si bien qu'un des mots-clés, c'était l'automatisation du travail, et que l'enjeu majeur dans ce cadre-là, et ce cadre-là est en train de se mettre en place, était de trouver un moyen d'éviter que les gens soudain privés d'emploi et de place sur le marché du travail ne se révoltent ou ne s'effondrent sur eux-mêmes. Et l'une des hypothèses était effectivement la mise en place d'un revenu universel. Je ne dis pas du tout cela pour m'en féliciter. Au contraire, je pense que c'est un enjeu terrible auquel nous allons devoir être confrontés. Mais ce qui est sidérant, c'est de l'ignorer et de penser que pour maintenir la bonne santé de l'économie française, il faudrait y injecter des masses de travailleurs, généralement en plus sous-qualifiés, ce qui est un contresens. Un contresens absolu. Le décalage en réalité est total. Alors pour reparler des robots humanoïdes, alors moi je pense que les robots humanoïdes ne sont que en quelque sorte un outil de communication pour un mouvement qui est beaucoup plus vaste. Faut vraiment pas croire que la robotisation se résume à des robots humanoïdes qui seront présents dans notre environnement. Ce sera peut-être le cas, mais je crois que c'est surtout quelque chose qui est destiné à frapper l'imagination et à montrer les capacités qui sont celles des entreprises qui produisent ce type de solutions. Mais la plupart des solutions, en réalité, sont des solutions invisibles. Voilà,
l'automatisation. Oui, et en fait, vous avez parfaitement raison.
Il y a déjà lieu.
quand Mélania Trump est en train d'être à côté d'un robot, je ne parle pas de Brigitte Macron qui était présente elle aussi à cette même réception. Voilà, c'est pour que le robot fasse partie de notre vie, de notre environnement. Mais on a vu défiler des robots chiens qui sont effectivement plus efficaces pour se faufiler dans les gravats. Il y a des robots serpents qui sont capables justement de serpenter dans les canalisations les plus incroyables. Voilà, il y a en fait une robotisation sur des travaux pénibles, toujours pour d'excellentes raisons d'ailleurs de sécurité.
Pénibles ou semi-pénibles, hein, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va remplacer, va créer des ravages parmi les cols blancs et les employés. C'est déjà le cas quant à la robotisation mécanique. Aujourd'hui, la France est essentiellement, malheureusement, non plus une économie de production, mais une économie de flux dans laquelle la logistique est l'un des secteurs principaux. Eh bien, je peux vous dire que dans la logistique, la robotisation est en cours et va mettre au tapis et dehors un nombre absolument invraisemblable de personnes. Mais dans la logistique, la robotique, ce ne sont pas des robots avec des jambes et des bras. Ça peut être le cas.
Non, ce sont des tiroirs qui roulent.
Ce sont des tiroirs et des tapis roulants.
Exactement. Et avec des ruches, d'ailleurs, absolument fascinantes. Et là aussi, d'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs de regarder ce que l'Usine Nouvelle publie régulièrement sur ces robotisations. C'est vraiment fascinant et vous avez parfaitement raison. Là, aucune face humanoïde, juste des caisses et des poulies et une intelligence qui gouverne les 1000 abeilles de l'entrepôt logistique.
Pour comprendre l'impact que ça va avoir, il faut savoir que parmi les fameux gilets jaunes dont il était question dans la chronique précédente, il y avait un certain nombre de catégories sociales qui étaient particulièrement, catégories professionnelles ou de métiers qui étaient particulièrement représentées sur les ronds-points, et les travailleurs de la logistique étaient surreprésentés. C'est-à-dire qu'ils représentaient une fronde des anciens travailleurs de l'industrie de production recyclés et donc déclassés dans l'industrie, dans la logistique, où ils ne bénéficiaient pas de la même estime d'eux-mêmes, parce que fabriquer quelque chose, ça donne plus de fierté que de simplement déplacer des cartons. Mais la triste réalité, c'est que la prochaine crise à laquelle nous allons probablement être confrontés, c'est la disparition d'un grand nombre de ces emplois dans la logistique. Voilà de vrais enjeux sur lesquels la classe politique devrait travailler, plutôt que de penser qu'en faisant venir des masses d'Africains, on va résoudre nos problèmes de croissance. Autre contresens complètement dingue. Je veux bien entendre que dans les années 50-60, lors des 30 Glorieuses, alors que la France était industrielle, nous avons fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. C'était probablement déjà une erreur, puisqu'au même moment, les Japonais eux-mêmes lançaient la robotisation et l'automatisation de leurs propres usines. Mais bon, passons, il s'agissait quand même de travailleurs. Ensuite, il y a eu le regroupement familial, on le sait, et cette immigration de travail est devenue une immigration de peuplement. Et enfin, aujourd'hui, quel est le modèle économique français? Le modèle économique français, malheureusement, c'est essentiellement un modèle que Jérôme Fourquet a appelé stato-consumériste. C'est-à-dire que c'est un modèle dont le principal moteur n'est plus la production, mais la consommation. Et que c'est une consommation, c'est la consommation qui fait tourner l'économie. Le problème, c'est que cette consommation, elle est financée par la dette. Elle est financée par la dette, c'est-à-dire que c'est l'endettement des futures générations qui permet de faire tourner l'économie en offrant des revenus de substitution, des transferts de revenus vers des populations qui malheureusement ne sont plus au travail. Et donc dans ce cadre-là, je crois que lorsqu'on fait venir de nouvelles vagues d'immigration, il faudra arrêter, parce que là aussi c'est complètement vintage, dépassé, arrêter de parler de faire venir des travailleurs immigrés, parce qu'en réalité, et le sous-emploi massif des immigrés qui viennent en France le prouve, il s'agit plutôt de faire venir des consommateurs immigrés. Alors c'est pas perdu pour tout le monde, voilà, c'est pas perdu pour tout le monde, il y a tout un tas de gens qui, de filières, notamment, ceux qui construisent des logements sociaux, ceux qui les gèrent, les associations qui leur viennent en aide, et peut-être jusqu'à la grande distribution, qui bénéficie de cet afflux permanent de consommateurs immigrés, mais en réalité, cette façon de faire tourner l'économie est absolument ravageuse, puisque une fois de plus, elle ne tient qu'à notre capacité à nous endetter, tant et si bien que cette plaisanterie sera payée par les futures générations de Français et que c'est absolument un crève-cœur. Donc entendre un futur candidat à la présidentielle entretenir ce modèle dans le statu quo, parce qu'en fait ces gens se présentent comme devant accompagner la France dans une marche vers l'avant, leur parti s'appelait En Marche, le livre du précédent candidat c'était Révolution. Ce ne sont pas des candidats de la Révolution, ce sont des candidats du statu quo, et un statu quo qui est celui d'une lente apoplexie dans tous les domaines.
Eh bien, merci beaucoup Xavier Van Lier, pas vraiment de nous promettre cette lente apoplexie, mais de nous désigner précisément ceux qui prétendent être intelligents et en fait ne sont un que ringards et deux que vraisemblablement pernicieux et préjudiciables à l'économie française et donc à la société. Merci et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Du lundi au vendredi, de 17h30 à 19h30, retrouvez Restons Courtois.
La bête de l'événement est là.
Restons Courtois, la nouvelle émission de débat pertinente et impertinente de Radio Courtoisie.
Non, 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 il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême. Non, 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 non.
Du lundi au vendredi, de 17h30 à 19h30. Restons Courtois, en partenariat avec Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et L'Incorrect.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, c'est avec Éric d'Outrepente. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante et gérant de clients privés. Et vous voulez nous parler ce matin de quelque chose qui secoue le landerneau boursier et industriel depuis hier. C'est l'annonce de la fusion envisagée entre Pernod Ricard et Brown-Forman, donc deux géants des alcools. Brown-Forman, pour ne citer qu'une des marques les plus connues, en tout cas des Français, c'est Jack Daniels. Qu'en est-il? Est-ce que cette fusion va se faire? Et comme à chaque fois que vous évoquez une valeur cotée, quel est le parcours boursier de Pernod Ricard?
Alors, c'est un fleuron de l'économie française qui a su conquérir le monde. Pernod Ricard, c'est un producteur d'alcool, mais il se définit surtout comme un créateur de convivialité. C'est aujourd'hui un titan du luxe et des spiritueux qui allie une gestion familiale prudente et une ambition technologique de pointe. Mais comme vous pouvez le voir, le groupe est un leader incontesté. Il traverse aujourd'hui une zone de turbulence qui crée une opportunité intéressante. Alors le portrait du groupe, l'héritage et la puissance de ce groupe, c'est d'abord l'histoire d'une fusion réussie en 1975 entre deux rivaux du pastis. Aujourd'hui, c'est un pilier du CAC 40 avec une particularité rare, son ancrage familial. La famille Ricard détient environ toujours 14% du capital et 22% des droits de vote, garantissant évidemment une vision à long terme comme beaucoup de sociétés familiales. Sur le plan opérationnel, Pernod a généré en 2025 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires porté par presque 20 000 collaborateurs dans 160 pays et dont 4 000 salariés en France. Ce qui est intéressant, c'est l'équilibre géographique de ses revenus. L'Asie et le reste du monde pèsent pour 42% porté par l'appétit colossal de l'Inde et de la Chine. Les Amériques et l'Europe se partagent le reste avec environ 29% chacun. C'est un groupe donc bien diversifié. Alors c'est un groupe qui a fait le pari de la création de valeur. On appelle ça la maison des marques. Passons au cœur du moteur, donc les produits. La stratégie de Pernod Ricard tient en un mot, premiumisation. C'est-à-dire que le groupe ne cherche pas à vendre du volume, bas de gamme, mais il veut proposer de la valeur. Plus de 90% de ces ventes proviennent de marques dites premium ou prestige. Dans le portefeuille, on trouve des icônes que vous connaissez tous. Pour le whisky, le leader, c'est Jameson, et aussi les Écossais Chivas, Regal et Glenlivet. Pour la vodka, c'est Absolut. Et pour la partie luxe, il y a la partie Cognac Martel que tout le monde connaît, suite à une OPA dans les années 90 sur le groupe qui était coté aussi en bourse, Martel était coté. Sur les champagnes Moom, qui avaient était passé par Seagram, et Perrier Jouët, qui est très connu par sa bouteille iconique Belle Époque, qui est en forte croissance. Alors, Pernod se situe dans un marché de géants. Le marché global des spiritueux pèse environ 500 milliards d'euros. C'est immense, c'est un marché de super acteurs. Pernod Ricard occupe donc la troisième place mondiale. Il est devancé par le numéro 1 mondial Moutai, qui survole le marché, surtout chinois, grâce au Benju, mais qui exporte assez peu ses produits hors de Chine. Le second rival est le britannique Diageo. Mais attention, Pernod reste loin devant tous les autres poursuivants. Pour vous donner une idée de la concentration du secteur, sachez que le chiffre d'affaires cumulé des 7 premiers acteurs mondiaux atteint 73 milliards, donc je vous rappelle, sur un marché de 500 milliards. C'est un club très fermé où Pernod joue les premiers rôles. Alors, je reviens à votre introduction sur l'hypothèse de fusion avec Brown-Forman. L'actualité récente a été que Brown-Forman est, donc, qui est très connu par le célèbre Jack Daniels que vous avez évoqué, un célèbre bourbon. Eh bien, c'est une rumeur, ce mariage pourrait se faire. Les synergies seraient massives, mais Pernod apporterait son grand réseau de distribution mondiale assez fort et Brown-Forman apporterait évidemment ses produits, dont le fameux bourbon. Donc, si ce rapprochement se concrétisait, on créerait un monstre capable de détrôner Diageo. Cependant, les investisseurs restent prudents. Ils s'interrogent sur les prix et sur l'augmentation de la dette et sur la complexité d'intégrer deux cultures d'entreprise aussi fortes. Alors, vous avez évoqué le parcours boursier. Eh bien, le marché a été très compliqué depuis 2021. Alors, 2021, c'était le pic sur beaucoup de valeurs liées à l'effet Covid. Donc, le marché le titre Pernod est en baisse de 70% sur le plus haut de 2021. Vous voyez qu'on est sur une valeur très basse en termes boursiers. Évidemment, les ratios sont faibles, mais c'est sur un secteur qui a vraiment été pénalisé par le ralentissement de la croissance en Chine et un déstockage massif aux États-Unis. Donc, une valeur intéressante, mais vous savez, quand il y a des fusions, ça met toujours un peu de temps. Et donc, pour l'investisseur aujourd'hui, si on croit au rebond des spiritueux et du vin, il faut peut-être mieux aller chercher un LVMH qui est plus diversifié, qui atteint le luxe, que de... Donc, il faudra être patient, mais c'est une valeur, c'est peut-être un point d'entrée sur Pernod. Alors enfin, même si le marché du vin est en baisse, le vin reste une matière centrale et salvatrice de la culture chrétienne en cette veille de Jeudi Saint. Donc, bonne semaine sainte.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Et à vous aussi, très bonne semaine sainte.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour cher Alexandre, bonjour cher Franck, bonjour chers auditeurs. Mais que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? C'est le Figaro qui l'exprime le mieux en une, avec une photo de l'hémicycle assortie de cette légende. De retour au Palais Bourbon après les municipales, les parlementaires expriment leur lassitude vis-à-vis d'un agenda trop corseté et pas assez politique. Tous ont déjà le regard tourné vers la présidentielle. Vincent Trémollet de Villers titre son éditorial « Bruit, impudeur et impuissance », se faisant l'écho des querelles au sein de l'hémicycle et évoquant l'action publique si dégradée. De la pompe à essence aux factures d'électricité, en passant par le trajet dans les transports, le délabrement du décor de nos vies, l'effacement de la civilité... L'école des enfants qui s'affaisse, l'hôpital où les parents cherchent une place, l'action publique est consubstantielle à nos existences. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'elle est à la hauteur. Et le voilà qui conclut, cette fois c'est vital, la France doit se regarder en face et la politique, la vraie, reprendre ses droits. Alors si vous voulez connaître l'agenda prévisionnel du Parlement ces prochaines semaines, Willy Bordas vous les offre sur un plateau dans les pages intérieures du Figaro, les voici. Il y a d'abord le projet de loi constitutionnelle sur les élections en Nouvelle-Calédonie qui devrait normalement, dès cette semaine, subir un revers législatif. Les textes sur la fin de vie et l'ouverture du droit à mourir reviendront également prochainement au Palais de Luxembourg, puis à l'Assemblée. Le journaliste ajoute aussi le texte du député Charles Rodwell sur la prévention des risques d'attentats, celui du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez sur la sécurité au quotidien, mais aussi celui sur l'urgence agricole porté par la ministre de l'Agriculture. Bref, la routine, et là, c'est moi qui l'ajoute. Mais ce qui occupe la presse et revient une fois de plus dans le débat est la guerre qui continue à sévir au Liban. La Croix consacre sa une et trois pages au conflit avec Israël. Jenny Lafont, correspondante au Liban, est allée à la rencontre de la population et rapporte les propos de Shadi, la trentaine, gérant d'une salle de sport installée dans la localité chrétienne de Hadat, limitrophe de la banlieue sud de Beyrouth. Quand il apprend l'attaque du Hezbollah dans la nuit du 1er au 2 mars, Shadi ne dissimule pas sa colère, rapporte la journaliste. Il a transformé tout le Liban en zone de guerre. Regardez où nous en sommes maintenant. Depuis le premier jour, on sait qu'Israël veut s'emparer du Sud, mais le fait que le Hezbollah leur ait donné une raison de le faire aussi facilement, c'est une erreur, explique-t-il. En tant que chrétiens, nous n'aimons ni le Hezbollah, ni Israël. Les deux sont nos ennemis. Quel que soit celui qui gagne, nous serons perdants de toute façon. Il dit espérer une troisième voie qui nous rendra, je cite, « indépendants » à la fois des aspirations israéliennes et de celles du Hezbollah. Alors de son côté, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, le fameux HCR, a annoncé que plus de 200 000 personnes, dont une grande majorité de Syriens, ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars. Et parmi eux, près de 180 000 sont aujourd'hui contraints de fuir à nouveau. Plus de 28 000 Libanais ont également franchi la frontière syrienne et fui les bombardements israéliens intensifs. Alors on lira en cette semaine sainte la page consacrée au livre du père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, écrit avec Guillaume de Dieu le Veu, « Les ruines et la lumière » paru aux éditions du Rocher. Alors rappelons que le 17 juillet 2025, Israël a frappé le fronton de l'église au pied de la Grande Croix. 3 morts, 12 blessés. Le père Romanelli, blessé à la jambe, a refusé alors l'évacuation. Et comme l'écrit Héloïse de Neuville, la journaliste de La Croix, « Chaque matin, quelque chose tient bon dans les ruines de Gaza, où restent 665 chrétiens. C'est peu, c'est tout. » À lire aussi la tribune de l'académicien Jean-Marie Roard, intitulée « Le rituel tragique des bombardements de civils » dans le Figaro. On peut s'interroger, écrit-il, sur l'intérêt et le bénéfice qu'il y a dans les bombardements des populations civiles. S'agit-il d'un intérêt stratégique ou d'une punition collective ? Hélas, la législation internationale en matière de guerre ne nous sera pas de beaucoup d'aide, puisqu'il y a belle lurette que les belligérants n'en tiennent pas plus compte que d'un chiffon de papier. Les bombardements de populations civiles semblent en effet être entrés dans les mœurs. Après avoir rappelé les horreurs des bombardements civils dans différents conflits qui souvent n'ont fait qu'attiser les ripostes, Jean-Marie Roard écrit encore « Difficile sur un tel sujet d'éviter les banalités. Néanmoins, quelle pitié pour nos civilisations qui accordent tant de prix à la vie humaine, à la recherche médicale, à la lutte contre le cancer, à tous les maux qui abrègent la vie, de voir que dans le même temps, on reste indifférent à ces bombardements inutiles qui épargnent les professionnels de la guerre et remplissent les hôpitaux d'enfants estropiés et les cimetières d'innocentes victimes. Cette réflexion risque de ne pas avoir beaucoup d'effet. Et comme tant d'indignations qui, si elles ne guériront pas les maux dans la planète, dont la planète est la victime, le seul hommage qu'on peut rendre à ceux qui souffrent dans l'indifférence. » Voilà, et on lira une tribune de Bruno Retailleau dans Le Figaro, titrée « Le refus des extrêmes ne suffit pas à justifier une candidature unique », et 3 autres entretiens, Marine Le Pen dans Le Parisien, Alain Finkielkraut dans Valeurs Actuelles, mais aussi le cardinal Sarah à Anne-Laure De Becker dans Valeurs Actuelles à l'occasion de la sortie de 2050, livre d'entretien avec Nicolas Diach et Fayard. La démocratie peut être une forme de gouvernement légitime lorsqu'elle respecte la dignité humaine et la loi naturelle, dit-il. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle prétend décider de la vérité. La majorité ne peut pas définir ce qui est bien ou mal. Si la loi se coupe de la vérité sur l'homme, elle risque de devenir simplement l'expression du rapport de force. La liberté politique ne peut être authentique que si elle demeure liée à la vérité morale. Voilà, à la veille du Jeudi Saint, je vous laisse méditer les paroles de Mgr Sarah. Et puis, comme en 2018 et en 2022, l'équipe de foot italienne, la Nazione, ne participera pas à la Coupe du Monde après son élimination des tirs au but en Bosnie. C'est l'équipe qui l'annonce en une. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Je vous dis à demain.
Zone libre.
Et la zone libre, c'est avec Louis Rigaudière. Merci Louis, j'ai adoré votre chronique désespérante tout à l'heure sur cette démocratie en faillite et en lambeaux. Mm-hmm. Est-ce que vous avez encore quelques gouttes à verser dans cet océan de tristesse ?
Alors, est-ce que vous connaissez Mohamed Bekali ?
Et non.
Mohamed Bekali, c'est une, comment on pourrait appeler ça, une chance pour le Québec, non pas pour la France, mais pour le Québec, en fait, qui fait beaucoup parler de lui, parce que je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe outre-Atlantique. Et c'est un gros scandale qui a lieu en ce moment au Québec. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo est sortie sur les réseaux sociaux où l'on voit ce fameux Mohamed Bekali interpeller une policière, une jeune femme, toute jeune, hein, toute gentille, et de manière... très virulente. Je vous ai épargné, d'habitude, vous savez, je vous découpe des petits sonores et je vous fais profiter un petit peu de mes trouvailles que je déniche un petit peu sur le net. Là, je me suis ravisé parce que vraiment, c'est inaudible et c'est rythmé par des insultes toutes plus atroces les unes que les autres. Donc, je pense que c'était indiffusable. Mais en tout cas, on sent que la policière est complètement désarçonnée par ce langage très fleuri de ce fameux Mohamed Bekali pour un simple contrôle policier visant ses vitres teintées. Et ça a créé vraiment un scandale médiatique assez incroyable au Québec qui a encore lieu ce matin. Hein, et d'ailleurs, ce Mohamed Bekali est passé à la radio et le journaliste a réglé ses comptes avec lui. Donc peut-être que je vous diffuserai un petit peu de sonore parce que je viens de le découvrir avant de rentrer en studio. Mais c'est très intéressant de voir un animateur radio régler ses comptes avec ce fameux personnage. Et c'est très rythmé. Et on sent que le Québec n'a rien à envier à ses chances qui sont présentes sur tout le territoire français.
Mais avec quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc il l'a invité pour lui dire son fait plutôt que de
Exactement.
L'inviter pour qu'il puisse expliquer à quel point il avait raison contre la policière.
Et c'est ça. Il a accepté l'invitation.
Merci beaucoup Louis Rigaudière. Et d'ailleurs, si n'importe quelle racaille et les fils veut venir ici, elles sont bienvenues comme à chaque fois. Bonjour Maïlys, vous-même, vous avez trouvé quelque chose de formidable?
Oui, alors formidable, oui et non. Mais c'est forcément politique, mais c'est simplement pour dire que l'Italie, encore une fois, a raté les qualifications pour le mondial de football qui donc se déroulera en juillet 2026 et qu'à contrario l'Irak c'est la première fois de leur histoire qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Voilà, donc est-ce que vous Richard vous allez regarder la Coupe du Monde de foot ou pas?
Eh ben, c'est certainement pas.
Moi non plus.
Comme moi ils s'en foutent.
Ouais. Voilà, pas plus cette année que les années précédentes, je tiens à le dire. C'est dans mon ancien boulot, au moment de la Coupe du Monde de foot, brusquement toutes les salles de réunion étaient envahies de tifosi. On ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus recevoir de clients. Il y avait juste des écrans géants et des gens en train de nous regarder d'un air furieux, la bouche pleine de chips. C'était absolument effrayant. Magda. Quel lapin
moins,
aujourd'hui, quel cormoran, quel loutre.
J'ai pris un peu de sérieux quand même depuis, mais non, je reviendrai sur des animaux quand même. Non, là, je voulais parler de la fresque murale qui a été peinte en mémoire de la jeune ukrainienne Irina Zarutska qui avait été poignardée dans le métro. Et elle est en train de se faire
à New York.
Effacer. Ouais, le maire a décidé qu'il fallait l'effacer.
Bien,
formidable. Et effectivement, ne gardons pas mémoire des victimes parce que c'était une mauvaise victime par rapport à un juste agresseur.
Par rapport à George Floyd qui a eu un enterrement et des hommages énormes, non, elle se fait effacer la fresque qui avait été faite pour elle. Donc,
voilà, par décision du maire de New York, donc, qui, rappelons-le, c'est un maire musulman. Merci beaucoup, Magda Dautefeuille. Et c'est sur cette triste nouvelle que nous prenons congé de nos auditeurs sur YouTube et sur X, juste avant de leur adresser un dernier message. Voilà, vous êtes des dizaines, des centaines, plus d'un million à nous écouter chaque semaine si je cumule tous ceux qui nous écoutent en direct et pas en direct. Eh bien, tout ça, c'est une très bonne chose et faites un petit pas supplémentaire, soutenez-nous.
Attention, dès que j'ouvre mon micro, je demande des sous, en fait. Je suis Monsieur Tirelire. Et s'il vous plaît, ce n'est pas une blague, il faut soutenir Radio Courtoisie. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais aidez-nous à mettre un peu de chocolat dans la corbeille de Radio Courtoisie pour lui permettre de rester indépendante, de rester vraiment libre. Et pour cela, c'est très simple, il faut aller sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne dès maintenant ou vos chèques à l'ordre de Radio Courtoisie au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci d'avance.
Merci, et en plus c'est défiscalisé et ça vous permettra d'échapper à l'état taxaco dont justement Pierre Chasseret, nous parle à propos de l'explosion du prix de l'essence.
Ligne droite. Debout les Français.
Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour.
Voilà, vous êtes le délégué général et le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Et effectivement, on a bien besoin d'un porte-parole car le prix de l'essence explose. Et non seulement le prix explose, mais en plus, la pénurie menace. Hier, déjà, plus de 1000 stations-service étaient en rupture de stock en France. Et le mouvement ne fait que s'accélérer, aussi bien la hausse que la pénurie.
Bon, alors déjà, premièrement, je vais vous décevoir, je ne suis pas là pour répéter ce que disent les autres, il n'y a pas de pénurie.
Ah, eh bien, tant mieux.
Non. Non, le seul problème qu'on a, c'est qu'on a une marque de station qui est aussi le raffineur, hein, donc, qui alimente les autres stations, mais qui a décidé de faire un coup de com' en bloquant les prix. C'est Total. Total a bloqué les prix beaucoup plus bas, entre guillemets, non, pardonnez-moi, beaucoup moins haut que les autres, ce qui fait que tous les automobilistes sont allés chercher le carburant là où c'était pas cher, et en tout cas moins cher. Donc ils sont allés tous chez Total, et chez Total, quand on est bloqué à 2,09 pour le diesel par exemple, alors que la grande distribution ne peut pas faire en dessous de 2,25, eh bien au bout d'un moment, il n'y a plus de carburant chez Total. On se rassure, il y a du carburant partout ailleurs, il n'y a pas de pénurie, n'ayons pas peur de la pénurie, ayons peur des taxes, ayons peur du prix, ayons peur des conséquences sur les foyers, sur les ménages, ayons peur sur la croissance de notre pays, ayons peur surtout, mais ayons surtout peur, comme je le rappelais au début, de la fiscalité sur les carburants qui s'abat sur les automobilistes. C'est ça la véritable honte.
Bon, c'est super rassurant, effectivement. Au lieu d'avoir juste peur de la pénurie, on a besoin d'avoir peur de tout le reste. Donc, voilà. Mais malgré tout, reparlons justement de Total. Total avait décidé de bloquer les prix, mais il a annoncé qu'il allait peut-être réviser ce blocage. Et donc, les prix de Total aussi vont revenir au niveau des autres.
Alors, Total fait actuellement l'effort parce qu'il a été longtemps menacé en France de taxes sur les super-profits. Il faut se racheter une image. Donc cette image, il essaye de se la racheter maintenant en réglant un petit peu ses comptes, notamment avec la grande distribution, puisque pour une fois, la grande distribution ne parvient pas à être en dessous des prix de Total. C'est évident. Qui livre la grande distribution ? Total. Donc au final, le prix de vente du carburant lorsqu'il arrive en grande distribution, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande distribution applique une marge, évidemment. La marge qu'applique la grande distribution, Leclerc, Auchan, Intermarché, Super U, Système U, c'est 1, 2 ou 3 centimes maximum sur le prix du carburant. Vous doutez bien que ce n'est pas la grande distribution aujourd'hui qui fait le plein sur le portefeuille des Français. En revanche, rappelez-vous la promesse de Michel-Édouard Leclerc qui avait dit « Vous allez voir, ça va baisser de 30 centimes ». Pas possible. Il s'est planté parce qu'il n'est pas dans cette capacité-là. Aujourd'hui, il a dû se faire d'ailleurs sacrément sermonner par tous ses magasins parce que les magasins ne sont pas en capacité de le faire, parce que ce serait une perte économique qu'ils ne pourraient supporter. Donc au final, ils vendent à un prix qui est exorbitant parce qu'on achète le carburant déjà à un prix exorbitant. Et pourquoi ? Parce qu'il est surtaxé. C'est tout. Et pour les petites stations-service indépendantes, je me suis renseigné, aujourd'hui, quand elles achètent le litre de gasoil, alors elles en commandent plusieurs dizaines de milliers de litres, évidemment, mais quand elles remplissent la cuve, elles l'achètent 2,25€ le litre. Comment voulez-vous qu'en achetant à 2,25€, vous le vendiez à 1,50€ ? C'est pas possible. Donc au final, on se retrouve avec des prix sur les petites stations-service qui sont avec des marges appliquées de moins de 8 centimes. Ça, c'est ce que gagne la petite station-service dans votre ville, dans votre village. Moins de 8 centimes par litre. Pendant que l'État, oui, se gave. Bien sûr qu'il se gave. Mais sur une erreur économique, parce que ça n'a aucun intérêt de surfiscaliser les carburants en termes économiques, on appauvrit le pays.
Alors, l'État, évidemment, n'est pas d'accord avec vous. D'une part, il conteste le fait qu'il se gave et évidemment, le fait de prendre les automobilistes pour des vaches à lait lui permet de prélever un impôt dont on sait à quel point il est bien utilisé. Mais quel est le montant exact que prend l'État ? Repartons de ce prix de 2,25€. Combien l'État prend-il sur 2,25€ ?
2,25€, il va prendre 1,30€ à la louche. Voilà. On en est à peu près là. Alors, pourquoi ? Est-ce que l'État se gave ? Oui et non. Oui, et je vais le prouver. Moi, j'aime bien apporter les preuves de ce que je dis. Sous Nicolas Sarkozy, on était déjà bien taxé sur les carburants. Chaque année, les taxes rapportaient 33 milliards d'euros. Sous François Hollande, gouvernement de gauche, social, on est passé à 39 milliards d'euros, donc 6 milliards de plus de taxes. Sous Emmanuel Macron, on est passé donc de 39 milliards à 50 milliards. Voilà, tout est dit. Voilà, on a
avec une quantité d'essence dépensée équivalente, il faut le noter aussi.
Bien sûr. Les volumes, les Français ont à peu près besoin des mêmes volumes tous les ans en carburant. Ça n'évolue que très peu. Donc ça, c'est ce qui se passe sur les taxes. Actuellement, j'entends ce vent autour de la TVA. Est-ce que l'État ramasse plus de TVA, oui ou non ? Ben oui, puisque les volumes ne baissent pas. Donc il y a un effet d'aubaine pour le gouvernement. Est-ce que ça représente des sommes importantes ? Oui aussi. En revanche, est-ce que l'État se gave ? Oui, il ne le dit pas. Mais oui, parce qu'il y a un budget qui ne tient pas la route et que Sébastien Lecornu veut à tout prix tenir son budget. On l'a tous compris, tous les Français l'ont compris. En revanche, c'est un très mauvais calcul économique. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est très important. Un point de croissance en France, c'est 30 milliards d'euros. Un point en économie, c'est 30 milliards. Actuellement, nous avons déjà perdu sur un trimestre, en un mois, un demi-point de croissance. Ça veut dire qu'on a déjà perdu, la louche, un sixième de 30 milliards. On a perdu 5 milliards. Pourquoi ? Parce que lorsque les carburants augmentent, le carburant, c'est le poumon de la France. C'est ce qui donne le la à l'économie. Lorsque les carburants augmentent, qu'est-ce qui va se passer ? On va moins consommer. Parce qu'on va mettre plus d'argent dans le plein de carburant. Il y a moins de reste à vivre pour les Français. Donc, moins de reste à vivre, moins de consommation. Moins de consommation, moins de croissance. Moins de croissance, perte de PIB. C'est-à-dire que la France est en train, derrière l'apparence de vouloir gratter à la fin de l'année 1 ou 2 milliards sur la TVA, nous avons déjà perdu, actuellement, c'est fait, un demi-point de croissance, c'est-à-dire 5 milliards. Donc je me pose quand même des questions.
Voilà, c'est que l'État, en maintenant les prix, en maintenant son montant de taxes sur chaque litre d'essence, fait en sorte, puisque l'essence a augmenté, de diminuer le pouvoir d'achat des Français qui achètent moins, et donc c'est en fait une espèce de spirale récessive qui est entraînée. Pourquoi l'État français ne veut-il pas baisser les taxes qu'il perçoit sur le prix d'essence ? D'autres pays soumis aux mêmes problématiques géopolitiques, c'est-à-dire l'enchérissement considérable du pétrole à cause de la guerre irano-israélo-américaine, pourquoi la France ne veut-elle pas baisser le niveau des taxes ?
Je ne peux vous faire qu'une supposition, parce que l'évidence économique, c'est la courbe de l'affaire. C'est un principe économique très facile à comprendre, qui existe, qui est théorisé, qui est dans tous les manuels. C'est celui que je vous ai expliqué. La surfiscalité tue la croissance. On va le faire simple et je vous réponds après. Demain, on met le litre de carburant à 10 euros avec 9,17 euros de taxes. Alléluia ! Le budget de l'État est sauvé. On va rembourser la dette en 3 jours. J'exagère, évidemment. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Rien de tout cela, parce qu'au final, plus personne ne consomme, l'économie française s'arrête. Que prouve cet exemple ? L'excès de fiscalité sur les carburants a un impact direct sur la croissance. Et il y en a. Et donc, aujourd'hui, nous sommes déjà dans cette surfiscalité. Pourquoi l'État refuse de reconnaître ce principe de base d'économie ? Principe de base d'économie. Je pense que, et là c'est une supposition, je pense que la réponse est politique. Et je pense que c'est aussi bête que ça, et aussi cynique que ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, le parti politique qui a porté depuis le départ la baisse de la fiscalité sur les carburants, c'est le Rassemblement national. C'est comme ça. Il y a eu à l'époque les Républicains qui avaient fait leur proposition, et il y a aussi la France insoumise qui propose une solution inapplicable, mais qui propose une solution tout de même sur les carburants. Pour l'État, je pense que baisser la fiscalité serait dans leur tête donner raison à leurs opposants politiques. Et j'ai l'impression qu'ils s'entêtent et qu'ils répètent les mêmes bêtises juste pour des considérations de fauteuil, de poste, de stratégie d'élection. Je crois que ce n'est malheureusement que ça et tellement indigne de tous les Français qui se lèvent le matin, faire leur plein pour aller bosser, pour faire le plein, pour aller bosser, pour faire le plein, pour aller bosser. Parce que là, c'est le tonneau des Danaïdes, quoi. C'est même pire que ça, c'est le mythe de Sisyphe. Vous savez, c'est on porte un rocher tout en haut de la montagne, et ensuite il retombe de l'autre côté, puis on le reporte en haut de la montagne pour qu'il retombe de l'autre côté. C'est ça le mythe de Sisyphe. Bah, c'est ce que vivent aujourd'hui les automobilistes. Ils se lèvent le matin, payent un plein qui leur permet juste de bosser, et on a coupé tout le reste. J'ai pas envie de cette société-là. J'aimerais que les considérations politiques sortent. C'est pas parce que parfois un parti politique peut avoir une très bonne idée que les autres ne peuvent pas s'en emparer. J'ai horreur des considérations politiques partisanes. Il se trouve que des bonnes idées politiques, il peut y en avoir partout, dans tous les partis. Il faut l'accepter. Ne pas accepter ça, c'est être un idéologue. C'est bien pour ça que dans ma carrière, après avoir été moi-même un peu en politique, je m'en suis écarté. Parce que j'ai compris aujourd'hui que la réponse politique n'était pas dans un parti, elle était dans des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont une meilleure idée que les autres. Il faut les suivre, quel que soit le parti.
Quel que soit le parti, il nous reste une minute. Quelle serait la solution simple que l'État français pourrait mettre en œuvre immédiatement et qui permettrait de desserrer l'étau qui se serre autour du cou des Français ?
Alors, je vais insister, c'est relancer la croissance, ou en tout cas faire en sorte de ne pas perdre nos prévisions de croissance qui étaient déjà très bas. Pour ne pas perdre notre croissance, pour la relancer, il faut donner, il y a deux options. Un, donner du pouvoir d'achat aux Français par l'augmentation des salaires. L'État ne peut pas le faire. On ne peut pas dire à un boulanger, maintenant tu payes ton employé 3 000 euros. On ne peut pas. Que peut faire l'État ? Augmenter le reste à vivre des Français. C'est-à-dire baisser de manière drastique la fiscalité sur les carburants. Et je vais vous dire de combien. En France, on fait du zèle, on est des toxicomanes de la taxe. J'ai employé cette expression qui est reprise en ce moment partout, l'État toxico. Voilà, c'est ce que je vois sur la taxe. Je propose que l'État français se cale sur la fiscalité carburant, non pas sur une mesure anarchique de Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, non, sur une position structurée, documentée par les manuels d'économie et par les directives européennes. Je propose que l'on se cale sur les planchers fixés par les directives européennes. Que dit l'Europe ? Une baisse de la TVA, il faut le faire. Que dit l'Europe ? Une baisse des accises, l'ancienne TICPE, l'ancienne TIPP. Mmh. Ça change toujours de nom au final. La même chose, c'est une taxe.
En 10 secondes.
Oui, et en 10 secondes. Et la suppression des certificats d'énergie, cette nouvelle taxe écolo de 18 centimes sur les carburants. Si on additionne tout ça et qu'on décide de baisser le prix des carburants au niveau de ce que fixe l'Europe, rien de plus que ce que fixe l'Europe. Ce serait une baisse du jour au lendemain d'environ, là sur le prix des carburants actuel, d'environ 55 à 60 centimes.
Parfait. Eh bien, oui, ce serait très bien. Eh bien, contre l'État taxico, espérons que justement, ça va être cette baisse-là. Merci beaucoup Pierre Chasseret et à bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci d'avoir été avec nous pendant toute cette matinale. Merci de rester d'ailleurs à l'antenne de Radio Courtoisie. Un dernier petit appel aux dons, parce que voilà, c'est la semaine sainte, et donc c'est le moment de faire pénitence, donnez-nous des sous.
Voilà, c'est parfait. Il ne me reste qu'à vous donner l'adresse soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne en fonction de vos moyens. Vous pouvez, même si vous avez très peu de moyens, nous envoyer 1 euro, 3 euros, 5 euros. Ça nous aide énormément puisque vous êtes très nombreux à écouter sans donner. Heureusement qu'il y en a qui font le geste. Merci à tous et merci d'avance.
Et avec vos dons, nous allons faire de très bonnes émissions, comme par exemple aujourd'hui.
L'antilibéralisme chrétien dans quelques secondes en direct avec Benoît Mancheron dans Au fil des pages. À midi, le libre journal du Nouveau Monde d'Evelyne Josselin pour l'Amérique à 7 mois des midterms sous des élections de mi-mandat. 17h, le RC Mag de Jean-Étienne Poza. 17h30, Restons courtois présenté aujourd'hui par Arthur de Vatrigan. À 19h30, rendez-vous avec Olivier Tournafon. Aujourd'hui, dans le libre journal du droit et des libertés, recherches avancées sur le progressisme. À 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer pour la théologie du corps et la tradition. Et puis à 23h, la soirée musicale en compagnie d'Aline aujourd'hui.
Merci. Et demain, nous recevrons Charles-Henri Gallois, donc le conseiller de Jordan Bardella, qui nous parlera bien sûr d'Europe. Et surtout Julie Solveig, une journaliste de Ligne Droite, qui vous parlera de son enquête, notre enquête sur la pédophilie dans le périscolaire parisien. N'hésitez pas, soyez là demain.
À demain, 7h.